Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, ADA Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a 3 rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse ? Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. ADA, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode.
Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour.
Salut, chers auditeurices. Salut Naomi Titi.
Salut Victoire.
Dans cet épisode, tu t'es passionnée pour les embrouilles. Alors, les embrouilles, c'est ce que les médias appellent parfois des rixes ou des violences urbaines. Ce sont des bagarres, le plus souvent, entre jeunes garçons dans des banlieues populaires. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais à lire quelques récits de faits divers toutes ces années, ça donne l'impression que certaines banlieues sont pleines de jeunes gens qui se bastonnent pour le fun comme d'autres jouent à la pétanque, sans que grand-chose ne soit fait à part envoyer la police. Alors que toi, tu connais le sujet un peu mieux, non ?
Oui, en tout cas, j'en connais ce que j'en ai entendu, puisque j'ai grandi à Gennevilliers, dans une banlieue de 45 000 habitants, dans le 92, c'est au nord de Paris. Et dans mon enfance, j'avais peur que mon grand frère se retrouve embarqué dans une embrouille de quartier. J'entendais tout le temps des histoires, des gars de chez nous qui débarquent à Asnières, la banlieue d'à côté, pour se battre contre une bande rivale, ou alors l'inverse, et parfois avec des armes. Ça faisait partie de notre environnement et ça préoccupait tout le monde. Parce que parfois, il y en a qui n'en ressortent pas vivants. La dernière fois qu'un gars est mort, c'était en 2016. Il avait 21 ans et s'appelait Lies. Et en fait, j'ai jamais trop compris pourquoi les gars s'embrouillaient autant. Parce que c'était pas lié au trafic de drogue, ni à de la délinquance. C'était pas des histoires d'argent, quoi. C'était pas des violences en bande organisée, comme on dit. Mais plutôt des embrouilles de bandes très désorganisées.
À l'échelle de l'ensemble du pays, ces embrouilles, elles ont fait 120 morts sur les 30 dernières années, dont la grande majorité, 80% en Île-de-France. Ton invité, le sociologue Marwan Mohamed, il étudie ce phénomène depuis plus de 20 ans et il va nous expliquer le rôle que jouent ces bagarres dans la construction des masculinités populaires. Marwan Mohamed, il est chargé de recherche au CNRS. Il a publié en 2023 l'essai « Y'a embrouille, sociologie des rivalités de quartier ». C'est paru aux éditions Stock. Alors c'est parti, les couilles sur la table, épisode 93.
Bonjour Marwan Mohamed.
Bonjour.
Alors, dans cet entretien, vous allez nous raconter comment ces bandes désorganisées scellent les destins de milliers d'hommes et même d'enfants. Avec vous, on va voir que derrière les embrouilles, il y a des normes, des valeurs qui sont propres à un territoire bien particulier, des quartiers pauvres où la population est très dense et majoritairement non blanche. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ça ressemble, des embrouilles ?
Alors, la forme que ça prend, c'est beaucoup d'intimidation, d'insultes, de menaces orales. C'est des menaces qui passent par la voie digitale, les applications, par la rumeur, le ragot. Et parfois, c'est des bagarres ou des violences à plusieurs contre un, en déséquilibre numérique, ou bien en tête-à-tête. C'est comme ça que les jeunes l'appellent, un tête, hein, le duel, le vieux duel
au nom. Ou un 1v1.
Ou un 1v1, exactement, si on prend les expressions les plus récemment construites par les dernières générations. Ça entretient toute une conflictualité, mais ça entretient également un récit, une rumeur, une forme d'actualité.
Justement, dans votre livre, vous racontez une embrouille typique, tirée d'une histoire vraie, même si vous avez changé tous les noms et les lieux. C'est une embrouille qui a eu lieu il y a 10 ans, entre deux banlieues voisines, et qui a dégénéré jusqu'au meurtre. Je vous la résume, ça fait des années qu'un conflit traîne entre deux villes, Procène et Candé. C'est un peu comme dans la comédie musicale culte West Side Story. C'est une rivalité de territoire, sauf qu'ici, ceux qui s'affrontent, c'est des jeunes qui se ressemblent. Des garçons en grande majorité, mais aussi des filles, tous entre 14 et 16 ans. Ils se provoquent, ils se tapent, ils s'attrapent à la sortie des cours, ils s'insultent par message sur le réseau social Snapchat. Et cette dizaine de jeunes très actifs dans l'embrouille est soutenue par beaucoup d'autres autour d'eux, qui se mouillent ponctuellement par solidarité, pour prouver qu'ils ne sont pas des faibles, ou bien pour défendre leur réputation. Et comme souvent dans les embrouilles, on peut être victime un jour et agresseur le lendemain. Donc pour se protéger, certains se baladent avec des couteaux. Et c'est comme ça que Véli, un jeune de Candé, s'est retrouvé poignardé. Il était venu soutenir un de ses potes dans une descente organisée contre Alim, la cible principale du camp de Procène, et il est mort. Il avait 16 ans. Alors, qui est responsable dans cette histoire? Est-ce que c'est juste les deux bandes, ou est-ce que c'est plus large que ça?
Ce que j'essaie de montrer, c'est que l'embrouille, c'est un écosystème. C'est pas seulement les acteurs qui se battent, c'est pas un fait divers, c'est un écosystème qui implique une diversité d'acteurs, qui font vivre l'embrouille, et sans l'ensemble de ces acteurs, pas seulement ceux qui se bagarrent, mais ceux qui entretiennent, font vivre, justifient, légitiment ces bagarres-là. Ces bagarres n'existeraient pas, parce qu'elles ne feraient pas sens. Les classes d'âge qui se sont battues s'inscrivent dans une histoire longue et ne font que reprendre le flambeau, quelque part, qui leur a été transmis. Ça a des effets sur les mobilités urbaines, et les mobilités urbaines sont très liées aux mobilités sociales.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est que si on a peur d'être confronté au clan d'à côté, ben en fait, on va moins souvent dans la ville en question pour ne pas risquer de les croiser.
Concrètement, il y a des espaces qui deviennent interdits, où on ne peut plus aller. On peut, par exemple, ne plus accompagner, c'est le cas dans cette histoire-là, on ne peut pas accompagner sa mère au marché. Voilà, même malgré ces demandes répétées. Parce qu'on se met en danger. Parfois, on ne peut pas accompagner sa famille dans une administration. Parfois, on ne peut pas soi-même aller dans une convocation ou d'aller jouer dans le club de foot ou un autre sport de la ville d'à côté parce qu'on peut se mettre en danger. Parfois, on ne peut même pas aller visiter sa famille qui habite le quartier d'en face. C'est ça, en fait, on en arrive à ce point-là. Et même quand on n'est pas directement impliqué, on peut se retrouver visé juste pour le fait d'habiter dans tel ou tel quartier rival.
Oui, c'est ça, être embarqué malgré soi, même si on ne comptait pas aller se battre contre le clan qui nous oppose.
C'est exactement ça. Et puis, ça a des effets sur les scolarités. Alors, d'une part, parce que comment est-ce qu'on peut se concentrer pour son travail scolaire quand on a une boule au ventre, quand on a peur de se faire violenter à la sortie? Comment se concentrer quand on est dans les murs? Et puis, il y en a plein qui ne vont plus dans les murs, c'est-à-dire qui développent des jours, des semaines, voire des mois d'absentéisme pour se protéger parce qu'ils se sentent visés, ou bien qui changent d'établissement. Là, dans cette histoire-là, on a plusieurs demandes de changement d'établissement qui arrivent à la direction soit du collège, soit du lycée où a eu lieu ce drame.
Est-ce que ce type d'embrouille-là, c'est propre aux banlieues populaires?
Il y a quelques années, il y a eu des affrontements collectifs à Lyon, dans le centre-ville, entre des jeunes qui étaient scolarisés dans des lycées privés, qui attiraient plutôt des jeunes lycéens, profil classe moyenne et supérieure, plutôt blanc de peau. Donc on a pu voir que ces bagarres et ces logiques d'affrontement, de virilité, de mise au défi, on pouvait les retrouver dans d'autres milieux sociaux. Et on retrouve ça dans d'autres milieux sociaux sous d'autres formes, peut-être plus ritualisées, beaucoup moins visibles dans l'espace public. Parce que le défi et le règlement par la violence et le duel de contentieux, c'était quelque chose qui était présent, y compris dans la bourgeoisie et la noblesse, et encore au début du XXe siècle. Donc ce n'est pas quelque chose qui est neuf. Sur la période contemporaine, l'inscription de ces rivalités, notamment en Ile-de-France, parce que quand on regarde le nom des bandes qui s'étaient créées à l'époque, les gars de Charonne, la bande des quatre chemins d'Aubervilliers, les Marlous de Belleville, on y est, là, les Montes en l'air de Batignolles, les Terreurs de Saint-Denis, les Tatoués d'Ivry ou les Cœurs unis de Grenelle dans le 15e arrondissement. Donc on a eu vraiment cette espèce de logique d'appropriation et d'affrontement sur des bases territoriales, les embrouilles de quartier. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était uniquement lié aux classes populaires, mais c'est vrai que c'est très marqué aujourd'hui, en tout cas pour la période récente, aux petites classes moyennes ou aux classes populaires en zone urbaine, en zone périurbaine et également en zone rurale.
Qui sont ces jeunes qui sont impliqués dans les embrouilles ?
Si on prend les impliqués, stricto sensu, c'est-à-dire ceux qui animent l'embrouille, qui la font vivre, qui s'affrontent physiquement, on a une population qui numériquement est très limitée. C'est-à-dire que par quartier, c'est 10, 15, 20 personnes maximum et qui font vivre une pression sur la ville. 10, 15, 20 personnes maximum qui peuvent mobiliser des proches qui vont se solidariser ponctuellement pour venir prêter main forte. Donc, ce n'est pas grand monde et c'est un profil plutôt masculin. Si on parle de ceux qui sont sur la scène d'affrontement, je précise, masculin avec des profils scolaires très marqués, c'est-à-dire des jeunes qui sont en échec scolaire et sont plutôt en échec scolaire de manière assez précoce. Un des constats de mon travail sur les bandes de jeunes notamment, ça avait été de montrer, ça a été confirmé par d'autres études, que la majorité des jeunes que je suivais étaient en difficulté scolaire depuis le début de la primaire.
Donc c'est très très précoce.
C'est très précoce. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu les ressources familiales pour les préparer au mieux et l'institution n'a pas pu compenser les écarts et les manques de départ. Et donc, c'est dans ce vivier-là qu'on retrouve une partie de la population qui est prise en charge par la justice des mineurs, qu'on retrouve dans les bandes de jeunes, mais qui vont être au cœur de l'animation des embrouilles. Pas tout seul, mais au cœur. Puis, il y a des profils un peu plus hétérogènes. De jeunes qui se solidarisent, plus secondaires. On en a un, par exemple, qui est plutôt bon à l'école, qui est scolarisé à Paris parce que ses parents développent des stratégies scolaires pour favoriser sa réussite. Et puis, on a des jeunes qui se solidarisent par loyauté familiale, amicale, territoriale, qui rendent un service, ou bien qui anticipent d'avoir eux-mêmes des problèmes plus tard et qui se disent « bon, vaut mieux que je rentre dans l'embrouille maintenant ». Pour aider les autres, comme ça, le jour où ça me tombe dessus, je peux compter sur eux. Ça dit quelque chose du climat et de l'environnement social et de la place que peut occuper, au fond, ces logiques de bagarre, d'embrouille et de violence. Et comme je disais tout à l'heure, la logique d'embrouille, c'est une logique d'écosystème. C'est-à-dire qu'on a plusieurs acteurs, plusieurs rôles. Il y a la scène de l'affrontement, qui est non mixte, et majoritairement masculine. Quand il y a une scène d'affrontement féminine, elle est également non mixte. Ça ne se mélange pas dans la bagarre. Par contre, on peut les retrouver dans la même embrouille, à agir ensemble. Et il y a souvent des filles qui agissent, y compris de manière très offensive, dans la mise au défi, dans la réponse au défi, etc., dans
donc
l'alimentation.
Sur les réseaux sociaux, ce que vous racontez,
entre autres, mais y compris dans l'établissement scolaire, dans la rue. Donc on a une partie des filles qui s'approprient, qui reproduit ces logiques de virilité qui sont hégémoniques dans la rue, on en reparlera. Mais tout ça pour dire qu'il y a toute une série de rôles, la médiation, l'engrenage, la logique de surenchère, d'encouragement, ou bien la volonté de séparer, ou le commentaire, la logique d'être dans une position de jury, de dire qui gagne, qui est le meilleur, de féliciter les uns et les autres, c'est ça la position de jury. Toutes ces positions-là, tous ces rôles-là sont mixtes. Voilà, sont mixtes, sont pas exclusivement masculins. La plupart de ces jeunes vivent dans des familles avec des configurations très plurielles. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait ressortir de forme familiale ou de configuration familiale, c'est-à-dire est-ce que famille monoparentale surreprésentée ou pas, si ce n'est la prévalence des jeunes qui grandissent dans les grandes fratries. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'études, mais qui n'est pas nouveau, en fait, qu'on retrouvait à la fin des années 50 et au début des années 60, qu'on retrouve dans d'autres pays. Dans les classes populaires, il y a un effet taille des fratries, qu'on peut expliquer de différentes manières. D'abord, de manière très pratique, plus il y a de monde à la maison, moins il y a d'espace. Et la nécessité qu'une partie des enfants se retrouve à l'extérieur pour que les choses soient à peu près vivables. Parce que les logements sont rarement adaptés à la taille des familles. Alors ça, c'est la configuration. Sinon, sur les logiques familiales, au fond, le point commun de la plupart de ces familles, il y en a deux. Le premier point commun, c'est la question des ressources. C'est des familles qui ont du mal à arrimer, c'est-à-dire de préparer leurs enfants à l'école correctement, de les lancer correctement. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est des familles dans lesquelles, pour ces jeunes-là qui s'engagent, les parents ont perdu leur autorité éducative. En sachant que l'autorité éducative, c'est la légitimité. Et que je discute avec beaucoup de parents sur cette question de l'autorité éducative, notamment de parents de jeunes qui sont impliqués, et ils ont une vision assez biaisée de ce qu'est l'autorité. Ils pensent que l'autorité, c'est l'intimidation, c'est la crainte, c'est la peur.
Et du coup, à un moment, ces jeunes-là, ils n'ont plus peur de leurs parents.
Et ils ont plus mal. Ils ont plus peur, ils ont plus mal à un moment donné.
C'est-à-dire qu'ils reçoivent des coups, mais
certains.
Mais ça ne leur fait plus rien.
Non. L'autorité, c'est la légitimité. C'est une adhésion, c'est une forme de crédibilité. C'est ça qui est important. Et donc, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas cette définition, cette vision en tête. Et c'est pour ça qu'on les entend souvent dire « Oui, mais comme on n'a plus le droit de taper nos enfants, on ne peut plus les éduquer. »
Après, je précise quand même que ce qu'on essaye de dire là, c'est pas que tous les parents des banlieues populaires frappent leurs enfants,
exactement,
évidemment, mais que c'est des endroits où forcément les configurations familiales peuvent être très différentes que dans la population générale. Et forcément, ça a un effet sur leur enfance déjà, puis sur leur adolescence. Et ce que vous avez dit sur le fait que les logements soient surpeuplés, ça m'a fait me rendre compte, vous le dites dans votre livre, qu'on parle jamais de ça quand on reproche à ces jeunes de traîner, de tenir les murs de leur cité. En fait, s'ils sont pas chez eux, c'est parce que c'est invivable de rester avec toute leur fratrie, toute la journée quand ils sont pas à l'école. C'est invivable de rester là-bas, quoi.
C'est très compliqué. Et vous avez raison de rappeler que quand on parle de châtiment corporel, on parle uniquement des familles dans lesquelles il y a des châtiments corporels, mais la question de la perte d'autorité, c'est pour toutes les familles concernées. Qu'il y ait des châtiments corporels ou pas de châtiments corporels, c'est pas ça qui est le critère déterminant. La question à laquelle il faut répondre, c'est au fond, pourquoi au sein d'une grande fratrie, on en est un qui se retrouve dans les logiques d'embrouille, des délinquances, et quatre autres qui réussissent pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré un contexte équivalent, en apparence, les histoires familiales, l'expérience familiale reste individuelle à la fin.
Julien Melin, ouais, moitié français, moitié kanak. Bon, lui, il était pareil, très caïra dans l'âme, il aimait bien faire des conneries et tout. Mais un exemple, son grand frère, qui était assez costaud, lui faisait faire des abdos. Moi, je l'ai vécu, hein, c'est pas des blabla, hein, c'est sûr 100% tout ce que je te dis. Moi, je l'ai vu, au 8e étage, il lui tient les pieds, il est dans le vide et il fait des abdos. Donc le mec a 17 ans. Donc c'est vrai que quand ton grand frère il te fait faire des trucs comme ça, c'est sûr quand on va à la foire du trône et qu'on se fait embrouiller, lui il a un tournevis et il plante tout le monde. Enfin, parce que en fait son frère il met déjà dans un délire guerrier de ouf. Tu vois ce que je veux dire?
Des problèmes de regard, ça pouvait être pour une parole, pour rien.
Mais après c'est un concours, hein, tu sais. C'est lui qui aura la plus grande gueule. Il y avait même des embrouilles entre cités, des fois, tu vois, de cités qui venaient chez nous pour se taper, ou vice-versa, tu vois. Quand on est gamin, on aime bien la surenchère, quoi. Tu vois, ouais, t'es pas capable, enfin, voilà, c'est un peu ça.
C'est comme une prison, un petit peu, hein. Quand c'est des histoires de cités, des blabla, il y en a plein. Mais c'est les actes qui font foi.
On vient d'entendre un extrait du 5e épisode du podcast documentaire La Cité des Hommes de Seham Boutata. C'est un podcast dans lequel elle retrouve ses anciens potes de Paganini, qui est une cité parisienne du 20e arrondissement, qui, je crois, existe toujours. Je voulais qu'on écoute ça pour se plonger dans ce que vous appelez la culture de l'embrouille, ou plus précisément dans l'économie morale des embrouilles. D'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est que l'économie morale?
C'est l'ensemble des normes et des valeurs qui donnent sens à des comportements dans un endroit donné. Et donc, il y a une économie morale de l'embrouille parce que c'est un type de comportement qui fait sens. Pour qu'il y ait des embrouilles, il faut à la fois que les gens soient disponibles. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc ça nous renvoie aux logiques un peu structurelles, hein. Les inégalités sociales et économiques, les inégalités scolaires, l'échec, le racisme et les discriminations aussi qui poussent les gens à se replier beaucoup sur leur propre territoire, qui limitent les mobilités. Donc il y a ces dynamiques un peu structurelles. Et puis il y a la question normative. C'est-à-dire tous les ensembles de principes et de règles sur lesquels on va justifier et on va reconnaître à un individu le fait de s'engager dans cette logique d'embrouille.
L'un des grands piliers de l'économie morale de l'embrouille, c'est le fort attachement au quartier ou à la cité. En fait, l'attachement au territoire. Par exemple, vous citez le sociologue David Lepoutre qui parle du nationalisme de cage d'escalier. Qu'est-ce que c'est?
C'est le fait de transformer l'attachement au quartier en sentiment d'appartenance. C'est le fait de transformer l'appropriation au territoire à la défense du territoire. C'est le fait de prêter serment, de manière totalement informelle, symbolique, pour défendre l'honneur du quartier l'honneur qui est un capital immatériel, qui n'existe que dans la tête de ceux qui le défendent, mais qui existe à travers eux. Et donc, c'est ça le nationalisme de cage d'escalier, c'est une manière de se construire une identité sociale et un rapport à un territoire donné. C'est important de souligner le rôle décisif de ce nationalisme de cage d'escalier, parce qu'on ne le retrouve pas dans tous les quartiers populaires. On ne le retrouve pas dans certaines régions, dans certaines villes, où il y a des quartiers populaires, où il y a des inégalités, où il y a de l'échec scolaire. Mais on n'a pas ces embrouilles de quartier parce que l'économie morale ne laisse pas de place, ou ça fait moins sens localement, pour des embrouilles de quartier. J'ai donné l'exemple dans le livre de Marseille. Marseille, il y a beaucoup de règlements de compte liés aux économies criminelles, au trafic de stupéfiants, etc., au banditisme, mais il n'y a pas de rivalité quartier contre quartier sur une base honorifique. L'hypothèse, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui fait tampon et qui modère l'importance et la centralité du nationalisme de cage d'escalier, c'est l'identité marseillaise. L'identité marseillaise, c'est-à-dire une forme d'identité communale qui est une identité collective et partagée, et c'est une identité qui reconnaît tous ses enfants. Et beaucoup plus que l'identité nationale, finalement. On a beaucoup de jeunes des quartiers populaires de Marseille qui m'ont dit « je suis plus marseillais que français », comme si Marseille était leur pays, et qu'il y avait une forme de d'attachement et de patriotisme marseillais. Parce que les quartiers populaires sont dans la ville. Ça change quand même pas mal de choses. Dans l'histoire, en Ile-de-France ou dans d'autres régions, il y a des embrouilles de quartiers à Angers, à Reims, à Chartres et dans d'autres villes plus ou moins importantes. Il n'y a pas d'équivalent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent.
C'est quoi les autres éléments de l'économie morale de l'embrouille? Je crois qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a la question de la solidarité qui est très forte.
En fait, la solidarité, les systèmes d'entraide, c'est... quelque chose qui fait partie de l'économie morale des quartiers populaires, et depuis très longtemps, et qui est quand même quelque chose d'absolument essentiel aux équilibres et au fonctionnement des quartiers populaires, parce que sans entraide, c'est difficile de compenser un certain nombre de manques. Donc l'entraide est là, et c'est des gens qui sont socialisés à l'entraide, des jeunes qui sont socialisés à l'entraide. Mais ces liens d'entraide et de solidarité, ils la déploient dans le cadre des embrouilles pour d'autres finalités. Ils ont quand même un rapport à l'honneur et à la notion d'honneur qui est particulier, parce que pour eux, l'honneur implique un système d'obligations, implique des obligations, et notamment l'obligation de se dévouer un peu corps et âme pour défendre la bande, pour défendre l'honneur du quartier.
Une forme de loyauté, quoi.
Ça demande une forme de loyauté qui est assez spécifique, qui n'est pas partagée par tous les jeunes du même quartier. Donc là, on voit que c'est une économie morale très située, très liée aux embrouilles. Et puis, il y a la question du rapport à la virilité. C'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et au fond, c'est ce qui rapproche les époques historiques depuis la période antique. C'est toujours la même histoire qui se rejoue, c'est-à-dire la manifestation de formes de masculinité, ou en tout cas d'une forme de virilisme exacerbé qui sert de base à la définition du féminin et du masculin, en l'occurrence là, beaucoup du masculin, de ce qui fait homme, de ce qui fait courage, de ce qui fait fierté, de ce qui fait honneur, de ce qui fait réputation.
Et là, c'est une notion de réputation qui est très importante dans les embrouilles. C'est-à-dire que quand on la lie à la virilité, il y a cette idée que défendre sa réputation, c'est savoir donner des coups et savoir les prendre, mais ne jamais rester sur une défaite.
C'est ça. C'est ça. Et en fait, la virilité, le virilisme, je dirais plus le virilisme, parce que la virilité, elle est extrêmement répandue dans la société, complètement normalisée, et pas que chez les hommes. D'ailleurs, c'était une des questions que je m'étais posée en écrivant, et je pense que je réfléchis à voix haute dans mes lignes. Je me disais, mais c'est fou quand même, en France, on associe systématiquement la virilité avec la masculinité, comme s'il n'y avait pas possibilité de penser des virilités féminines ou des féminités populaires qui s'éloigneraient peut-être des féminités hégémoniques dans le contexte français, mais qui ne seraient pas écrasées par le rapport du masculin à la virilité. Et là, pour le coup, on a un certain nombre de jeunes filles qui s'approprient ces normes de virilité, qui les reproduisent, qui les légitiment, qui passent à l'acte, qui se battent, mais à leur manière.
Et il y a quand même du coup un vrai apprentissage, on l'entendait dans l'extrait, là, le grand frère qui fait faire des abdos en tenant son petit frère par la fenêtre, par les pieds, ça paraît quand même assez fou. Il y a cette idée en fait de s'entraîner physiquement pour être prêt à se battre.
C'est ça, il y a tout un processus de socialisation à l'embrouille, et l'entraînement physique, les compétences pugilistiques, c'est-à-dire apprendre à se battre, apprendre à encaisser les coups, apprendre à protéger ses parties essentielles lorsqu'on se fait taper dessus par plusieurs personnes et qu'ils sont en surnombre. La préparation mentale, toutes les stratégies, les postures, c'est-à-dire que la socialisation à l'embrouille, elle se fait progressivement et pas que dans la rue. Elle est hégémonique dans la rue, elle se manifeste dans la rue, mais finalement, elle peut trouver des points d'appui, des fois en famille, des fois dans les institutions d'encadrement de la jeunesse, au sein de l'établissement scolaire, dans la cour de récréation. Ces systèmes de normes traversent les espaces, mais ont pour conséquence d'écraser la socialisation des jeunes garçons par cette injonction au virilisme.
Et dans cette idée d'être socialisé à l'embrouille, vous dites dans votre livre que c'est un peu l'école de la rue. C'est une expression qu'on entend beaucoup, qui est notamment beaucoup utilisée dans le rap, par exemple. Et vous filez la métaphore en disant qu'à l'école de la rue, bah, y a des matières, il y a l'histoire de la rue et ses coups d'éclat, il y a le langage à maîtriser, il y a l'éducation physique dont on vient de parler. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces matières? Par exemple, c'est quoi apprendre l'histoire de la rue?
L'histoire des coups d'éclat, c'est-à-dire les événements les plus spectaculaires, les plus dangereux, les plus fous, si on s'appuie sur les normes d'évaluation de la rue, c'est vraiment les événements qui restent, qui sont transmis efficacement par voie orale au sein des familles, dans la rue, dans la cour de récréation, et parfois qui sont relayés par du documentaire, du reportage télé, de l'article de presse, du son de rap ou autre. Donc, cette histoire-là, c'est une histoire en plus qui propose à plein d'adolescents qui sont un peu en souffrance, donc qui sont inquiets pour leur avenir, de devenir des sujets d'histoire, de devenir quelqu'un, des sujets d'histoire. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de s'inscrire dans cette histoire, de la prolonger, d'en écrire des nouvelles pages et de rentrer également dans une espèce d'espace de postérité du territoire. Moi, je suis toujours frappé, notamment là où j'ai grandi, que des jeunes générations me racontent des récits des années 90, des événements marquants que moi-même, je commençais à oublier.
Et vous avez grandi où ça?
Moi, j'ai passé jusqu'à 12-13 ans, j'étais à Paris. Et puis après, j'ai déménagé à Villiers-sur-Marne, dans la cité des Hauts-de-Noue. Donc, je suis resté très longtemps à Villiers-sur-Marne, jusqu'en 2005-2006, avant de déménager dans la rue d'en face. Et là, je vis toujours à Villiers-sur-Marne, mais en zone imposable.
Oui, parce qu'on peut raconter que la cité des Hauts-de-Noue, elle est célèbre pour être en rivalité avec la cité des Bois-l'Abbé de Champigny.
C'est ça, sur Marne. C'est exactement ça. Dans le Val-de-Marne, c'est une rivalité historique entre ces deux cités. Et elle a pour particularité cette rivalité d'avoir été maîtrisée, j'ai envie de dire pacifiée, entre guillemets, grâce à l'investissement de figures locales des deux quartiers. Depuis 2017, il n'y a plus d'affrontements entre les deux quartiers, alors qu'ils étaient connus, notamment dans le Val-de-Marne, pour être vraiment les symboles de l'embrouille dans le département.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est dans cette histoire-là qu'un certain nombre de jeunes s'inscrivent. Et puis, il y a la géographie. La géographie, c'est d'abord connaître parfaitement la topographie des lieux, savoir se mouvoir, savoir éviter les pièges, d'avoir une connaissance tactique, c'est-à-dire de pouvoir anticiper les descentes des rivaux, de savoir à quel moment porter l'estocade. C'est un des constats, un des plus frappants de lié à ma recherche, c'est que l'embrouille fait la ville pour beaucoup d'adolescents. C'est-à-dire elle redessine la ville en zones, des zones de sécurité, des zones de danger et des zones incertaines. Et ces zones incertaines, le fait qu'elles existent, ça a pour conséquence d'amener des jeunes à sortir armés ou à sortir en groupe pour éviter...
Emboulder, j'ai appris cette expression que je connaissais pas.
Exactement, emboulder, c'est ça, de débouler à plusieurs. Emboulder pour pouvoir parer à d'éventuelles rencontres, de mauvaises rencontres. Puis il y a le langage. Les embrouilles, c'est toujours du nouveau vocabulaire qu'il faut connaître et en connaître l'essence. Et puis l'éducation physique, la préparation des corps à encaisser et à donner les coups.
Dans la façon de se socialiser à l'embrouille, est-ce que vous diriez que du coup, c'est se socialiser à apprendre à être un homme viril ou même une femme virile? J'aimerais aussi qu'on parle d'un autre élément de la socialisation à l'embrouille dont vous parlez dans votre livre, c'est le fait de savoir gérer ses émotions dans l'adrénaline. Comment on apprend ça à l'école de la rue?
Eh bien, par la pratique. Il y a d'abord beaucoup de violences qui sont des violences ludiques et un peu ritualisées.
C'est-à-dire qu'on se taquine.
Ouais, on se taquine, on se tape dessus. Des fois, on se tape bien. Des fois, c'est les aînés qui brutalisent les plus jeunes.
Les grands.
Les grands, comme
ils sont
appelés. Il y a une
hiérarchie entre les grands et les petits. On est toujours le grand de quelqu'un ou le petit de quelqu'un.
Exactement. Et donc, il y a sur la base de cette relation de domination, il y a un certain nombre de grands qui brutalisent, entraînent, testent les résistances des jeunes. Parfois, je le dis tout à l'heure, c'était en famille. C'est pas majoritaire, mais c'est présent aussi. Parfois, c'est dans les clubs de sport, et y compris dans des sports de combat, c'est-à-dire dans la structuration de cet apprentissage-là. Il peut être très institutionnalisé. Et puis ensuite, ça va venir par l'expérience. Voilà. Les premières bagarres, les premières descentes. Et j'ai même envie de dire, la question de la descente, de savoir esquiver, de savoir... c'est aussi un apprentissage qui se fait dans la confrontation d'un certain nombre d'adolescents avec les forces de l'ordre. C'est un savoir qui se fait aussi dans la confrontation avec les institutions répressives qui, au fond, mobilisent et expriment les mêmes normes, les mêmes manières d'agir, si ce n'est que c'est avec la légitimité conférée par la loi.
La légitimité de la violence.
Exactement. Le monopole par l'État de la violence légitime.
Et ceux qui ne veulent pas se plier à ces normes virilistes, est-ce qu'ils existent dans les embrouilles? Comment ils font?
Alors, est-ce qu'ils existent dans les embrouilles? Ils s'en éloignent généralement. Ils s'en éloignent, ça n'a pas de sens, et ils peuvent en subir des conséquences, y compris dans leur mobilité sociale et urbaine. Mais c'est bien de se poser cette question-là, parce que ça me permet quand même de rappeler qu'on parle beaucoup, depuis tout à l'heure, des masculinités hégémoniques dans la rue, qui sont virilistes, de fait. Mais en fait, dans les quartiers populaires comme ailleurs, il y a une diversité des manières d'être au masculin ou au féminin, et notamment au masculin. Et parfois, on peut observer cette diversité-là chez les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a l'image du caméléon qui est extrêmement valorisée, mais pour le coup, moi qui ai travaillé sur des bandes de jeunes, des jeunes étaient dans une masculinité hyper viriliste dans la rue, et puis ils montaient au quatrième étage à la maison, c'était plus les mêmes. Déjà, parce que ça fait moins sens et parce que les normes de virilité, ou en tout cas les normes, les manières d'être masculin ou féminin à la maison sont basées sur d'autres règles et d'autres normes. Et puis ça pouvait encore changer dans le cadre d'une relation amoureuse ou conjugale où il y avait d'autres usages et d'autres formes de masculinité qui pouvaient s'exprimer. Je dis ça parce que quand on parle de masculinité populaire, on s'enferme rapidement et on assimile rapidement la masculinité populaire. Déjà, on l'essentialise et on l'enferme dans une forme de virilisme. Ça résiste pas à l'épreuve des faits. Si on prend l'ensemble de la population, par contre, c'est réel dès lors qu'on se focalise sur la rue.
Dans ce que vous décrivez dans votre livre sur l'économie morale de l'embrouille, il y a quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai vraiment grandi avec ça, c'est la grande importance donnée au respect. Et ça, c'est central dans les embrouilles. Pourquoi ?
Parce que, bon, je vais le dire comme ça, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on est dans des espaces et avec des identités sociales fragilisées. Et au fond, cette obsession pour le respect dans la relation de face à face témoigne de cette forme de fragilité
qui est sociale,
sociale, économique et culturelle, parce que on est dans une société où la respectabilité s'acquiert de différentes manières. Si on prend la société d'une manière générale, la réussite scolaire, la réussite professionnelle, la réussite culturelle, le patrimoine, enfin bref. Il y a plusieurs manières pour accéder aux respectabilités dominantes, mais pour une partie de la population pour laquelle ça n'est pas accessible ou trop difficile ou avec trop d'obstacles, comment va se construire la respectabilité et sur quelle base, et notamment pour des personnes qui sont en situation d'exclusion et dans des espaces qui font l'objet d'une forte ségrégation. Et c'est là où la respectabilité, où l'idée de l'honneur statut, de la réputation personnelle, ça devient quelque chose d'absolument essentiel parce que c'est l'un des principaux capital social. Celui qu'il faut absolument défendre pour ne pas s'effondrer, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à valoriser. Donc, la question du respect, elle est obsessionnelle. Et c'est en ça que, au fond, l'embrouille, son motif de départ, son déclencheur n'est jamais très important. C'est toujours très secondaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la disposition à l'embrouille. Et ce rapport au respect, à l'honneur et cette quête de réputation de manière très informelle, pour ceux qui sont dedans, c'est très important. La réputation pour ces adolescents, c'est très important. Ce qu'on va dire d'eux, c'est très important. C'est essentiel pour leur équilibre social et psychologique à un moment donné de leur vie. Mais c'est juste à un moment donné de leur vie. C'est-à-dire que cette place de l'embrouille, c'est pour des adolescents. Mmh. C'est un truc de petit, comme on dit dans la rue. C'est-à-dire la plupart d'entre eux sont mineurs. Et que de retrouver quelqu'un de 25 ans dans les embrouilles de quartier, localement, c'est quelqu'un qui va passer pour un arriéré. Mmh. Parce qu'il y a ce lien entre le type de transgression et l'âge qu'on a. Donc c'est quelque chose de passage, c'est quelque chose qui est vite contraignant. La plupart de ceux qui sont dans les embrouilles, à un moment donné, ça les saoule. Il y a un phénomène d'usure. Sauf que c'est très compliqué d'offrir une voie de sortie qui soit acceptable pour tout le monde.
Cette importance donnée au respect, ça m'a fait tilt parce que ça montre à quel point cette culture de l'embrouille, elle est partout. Parce que moi, je me rappelle très bien quand j'étais en primaire, au collège, ces tempéraments très susceptibles qui pouvaient partir d'un coup juste avec un regard ou avec... Notamment, je me rappelle, entre profs et élèves, ça arrivait beaucoup parce que les profs venaient pas de Gennevilliers et ils étaient confrontés souvent à des élèves qui étaient très explosifs. Et je me rappelle notamment d'une fille qui avait très mal pris la façon dont un prof l'avait parlé. Je crois qu'il l'avait réprimandée sur un bavardage. Enfin, vraiment pas quelque chose de très grave. Et le ton était monté très vite. Elle avait fini par lui claquer la porte d'une armoire sur la figure et ça avait... Enfin, elle avait eu beaucoup de problèmes avec ça. Donc, ça montre à quel point cette culture de l'embrouille, même s'il n'y a qu'une minorité de personnes qui sont impliquées, elle essaime un peu partout dans cette sociabilité-là.
Oui, et puis derrière le respect, c'est les subjectivités qui sont en jeu. Et on a des réactions qui peuvent paraître disproportionnées quand on mûrit, on a l'âge adulte, ou bien quand on a d'autres voies de valorisation, quand finalement on a trouvé une forme d'équilibre qui permet d'être quelqu'un aux yeux des autres, d'accéder à une forme de reconnaissance et d'estime de soi, dès lors que ça repose pas uniquement ou principalement sur des subjectivités fragilisées, tellement fragilisées qu'un petit mot de travers, qu'un petit regard de travers est vécu comme une atteinte intime. À sa dignité. C'est en ça que je parle de fragilité. C'est en ça que je parle de fragilité. C'est-à-dire que des regards de travers, il y en a partout dans la société, en fait. Les conséquences du regard de travers pour les subjectivités, pour les intimités, sont très différenciées selon le milieu social et selon, finalement, la place que va occuper cette honneur-statut, cette conception de la dignité de soi dans les relations sociales.
On a bien vu à quel point toutes ces embrouilles peuvent attirer énormément d'ennuis, que ce soit avec les bandes rivales, avec les forces de l'ordre. Et ça isole de sa famille, ça peut isoler des personnes qui ne veulent pas y être mêlées. Et dans votre livre, vous citez le morceau « Embrouille » du rappeur Rof. Il dit dans ce morceau « Les petits grandissent à la vitesse des balles ». Qu'est-ce qu'il y a de si attractif malgré tout ça, malgré tous ces risques? Pourquoi est-ce qu'il s'embourbe dans ces embrouilles?
D'abord, beaucoup s'engagent, j'ai envie de le dire, par espèce de devoir, quoi. C'est une espèce de fatalisme. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe dans les entretiens, c'est que des jeunes disent, quand ils ont 10 ans, 11 ans, il nous reste encore un peu de temps avant d'être dans les embrouilles. Comme si c'était le service militaire, quoi, du quartier. Mmh. Je dis ça comme ça, je ne sais pas si la métaphore est bonne, mais au fond, ils ont un rapport très fataliste, qui n'est pas lié à une forte attraction, en fait. Ils les redoutent, ils n'en veulent pas, ils préféraient s'en passer pour beaucoup d'entre eux. Mais ça fait partie de l'ordre des choses, et c'est à travers ce type de pratique sociale, ce type de comportement, qu'ils vont pouvoir aussi faire la preuve et démontrer qu'ils sont capables de répondre à l'injonction au virilisme, qu'ils sont capables d'être à la hauteur de la street et de ses normes et de ses valeurs, qui sont eux-mêmes des gars forts, des gars courageux ou des filles qui n'ont pas peur, qui vont pouvoir prouver et laisser s'épanouir leur adhésion aux masculinités hégémoniques. Donc, on prouve à travers l'embrouille qu'on est fort et qu'on n'est pas vulnérable. Qu'on n'est pas vulnérable, c'est un message qui peut être envoyé. Mais la plupart de ceux qui rentrent dans les embrouilles ne voient pas l'impasse. Ils ne voient pas l'impasse et ils voient, par contre, que ceux qui sont réputés à travers l'embrouille, on parle d'eux dans toutes les villes avoisinantes. Ils sont extrêmement populaires. Ils sont craints, ils sont respectés, ils sont quelqu'un. Et être quelqu'un, quand on est en échec scolaire, c'est pas simple. Au fond, on pourrait inverser la question en disant mais qu'est-ce qui reste à ces adolescents qui sont en échec scolaire de manière très précoce, de se sentir nuls, décalés, incapables, etc. Qu'est-ce qui leur reste, sachant que leurs parents leur font payer leur échec scolaire à la maison? Donc pas de reconnaissance des parents, parce que l'échec scolaire, pas de reconnaissance des enseignants, parce que l'échec scolaire, c'est quand même les deux acteurs essentiels qui produisent de la reconnaissance pour les enfants et les adolescents et les jeunes pendant très longtemps. Donc, il faut devenir quelqu'un. Ça, c'est impératif pour ne pas disparaître, pour éviter la mort sociale. Comment on devient quelqu'un? L'embrouille de quartier, la rue, la street, la délinquance, c'est des modes d'affirmation non conventionnels, illégaux, illicites, problématiques, mais extrêmement puissants dans ce qu'ils apportent. Et c'est là où on comprend l'importance de se mettre à leur hauteur. Quand on se met à leur hauteur, ça saute aux yeux, en fait. De voir, au fond, après une bagarre, le plaisir partagé, le débrief, le récit qui va être construit, comment il va être amplifié, comment il va être raconté, et comment des dizaines de personnes autour d'eux vont leur demander de re-raconter, vont leur taper sur l'épaule, vont les qualifier, vont les valoriser. Et ça, c'est le principal enjeu. Donc c'est ça la principale raison, au-delà des contraintes, de l'injonction, etc., c'est qu'ils en tirent des bénéfices secondaires, des bénéfices directs.
Il y a quelque chose qui est quand même assez déchirant quand on y pense, c'est qu'ils se battent entre semblables. C'est des bandes rivales, mais elles se ressemblent. Ils ont le même âge, ils ont les mêmes caractéristiques économiques, ils grandissent dans un peu le même style de famille, ils sont pas blancs. On pourrait se dire que s'il y a une faille sociale dans leur parcours et que c'est ça qui les motive, ils pourraient s'en prendre à des plus puissants qu'eux. Pourquoi ils se battent entre eux?
Alors, déjà, juste pour préciser, le fait qu'ils ne soient pas blancs, ça, je n'ai pas de base de données. Mais en fait,
il n'y a pas de statistiques ethniques
en
France.
Non, et puis, en fait les bandes ont la couleur de leur quartier. Les bandes ont la couleur des jeunes en échec scolaire, notamment des jeunes garçons en échec scolaire de ces quartiers-là. Et donc, qui est en échec scolaire parmi les jeunes dans ces quartiers-là et qui compose ces quartiers-là? Et effectivement, notamment en Île-de-France, on a beaucoup de cités aujourd'hui où les minoritaires sont majoritaires. Ils le sont dans le quartier, ils le sont dans les bandes, ils le sont dans les embrouilles, mais ils le sont aussi parmi ceux qui réussissent, qui font des études supérieures, qui ont des belles trajectoires professionnelles. Bon, c'est pas des logiques de constitution sur la base d'une appartenance. Les seules bandes raciales qui existent vraiment en France, c'est les bandes de skinheads d'extrême droite et d'identitaires. C'est les seules vraiment qui sont construites sur cette base-là. Maintenant, la réalité, c'est que c'est des semblables sociaux. S'ils habitaient le même quartier, ils traîneraient ensemble. Ils seraient sûrement les meilleurs amis du monde. Donc ça, ça montre à quel point l'enjeu n'est pas une espèce de conflit de classe, ni un conflit politique, parce que c'est très peu politisé, qu'il n'y a pas d'argent en jeu, et que du coup, on est vraiment dans un phénomène honorifique.
Pour vous, les embrouilles, elles ont un sens existentiel, en fait. Vous en avez un peu parlé. Vous avez même une paraphrase qui est intéressante, qui est une paraphrase du philosophe René Descartes. C'est comme si ces jeunes, ils se disaient « je m'embrouille, donc je suis ».
C'est ça. « Je m'embrouille, donc je suis » avec le verbe « être », une dimension existante. « J'existe par l'embrouille, mais je m'embrouille, donc je suis » avec le verbe « suivre ». C'est-à-dire que je m'embrouille aussi en me solidarisant et en apportant une aide, en étant en appui, en rendant service à d'autres jeunes, c'est-à-dire en manifestant une solidarité locale. C'est les deux. Mais c'est vrai que cette question des semblables sociaux, elle m'a beaucoup titillé au-delà des enjeux d'existentialisme. Et en fait, j'ai trouvé un certain nombre d'éclairages chez Fanon, par exemple.
Franz Fanon. Qui était un auteur intellectuel, homme politique très important, Martiniquais,
qui a fait l'essentiel de sa carrière en Afrique du Nord, militant anticolonialiste, psychiatre, extrêmement brillant et qui nous a légué un certain nombre d'essais essentiels pour comprendre à la fois la psychologie du colon, mais celle du colonisé. Justement, l'une des questions qui taraudait Fanon, notamment dans son livre « Les damnés de la Terre », c'était de comprendre pourquoi est-ce que, au fond, le colonisé parvenait, ou en tout cas était en mesure d'accepter toute une série de brimades, d'humiliations, de violences de la part du colon, en tout cas pendant un temps, et qu'il réagissait au quart de tour dès lors que les atteintes venaient d'un semblable. Il a sa phrase, il dit, je cite Fanon, il dit « Alors que le colon, le policier, peuvent à longueur de journée frapper le colonisé, l'insulter, le faire mettre à genoux, on verra le colonisé sortir son couteau au moindre regard hostile ou agressif d'un autre colonisé. » Fin de citation. Je trouve que c'est assez fort dans le mécanisme. C'est-à-dire que les jeunes des quartiers populaires aujourd'hui ne sont pas dans un contexte colonial. On n'est pas dans l'Algérie des années 40. Par contre, à mon avis, il y a un mécanisme que met en avant Fanon qui est assez intéressant, qui est celui de la réorientation. La réorientation d'une forme de violence vécue, de violence sociale vécue, vers le semblable par impuissance, de s'opposer au dominant, à celui aux logiques d'oppression.
C'est comme un vase communicant,
exactement.
En fait. Depuis tout à l'heure, on examine les embrouilles de quartier à hauteur de rue, pour reprendre l'expression de mon invité. Et on a bien vu que c'est des embrouilles très différentes des violences liées au trafic de drogue, de la petite délinquance, et c'est même encore très différent des révoltes politiques, notamment celles contre les violences policières. Sauf que dans certains médias, ou pour la police, pour les politiques, pour la justice, on appelle tout ça des violences urbaines, sans préciser ce que ça veut dire. Et ça permet pas de comprendre comment ces violences fonctionnent et leurs différences entre elles. Et en plus, ça encourage à voir tous les jeunes de banlieue comme un troupeau d'indésirables, voire comme des sauvages. D'ailleurs, en préparant cette émission, je suis retombée sur cette archive.
Une valise en Kevlar en guise de bouclier pour protéger le ministre de l'Intérieur des jets de projectiles. C'était à Argenteuil, quelques jours seulement avant les émeutes de Clichy-sous-Bois. Une énième visite en banlieue et un discours qui ne change pas d'un iota.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Donc ça, c'est l'extrait d'un reportage du journal télévisé de France 3. Ça date d'octobre 2005. Cette voix, vous l'avez peut-être reconnue, chers auditeurs, c'est celle de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Dans l'extrait, il s'adresse à une habitante d'Argenteuil, qui est une ville de banlieue du Val d'Oise, où il était en déplacement pour rencontrer des CRS. Et c'était un peu l'ambiance à ce moment-là, puisque quelques mois avant ça, il avait déclaré qu'il fallait, je cite, « nettoyer au Karcher la cité des 4000 de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis ». qui est un quartier où Sidi Ahmed Amash, un enfant de 11 ans, avait été tué lors d'une embrouille de quartier en juin 2005. Et deux jours après la déclaration qu'on vient d'entendre, Ziad Bena et Bouna Traoré, deux jeunes hommes de 17 et 15 ans, mouraient électrocutés le 27 octobre 2005 après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police. Et ce drame a déclenché une vague de révolte inédite dans les banlieues populaires françaises. Mais pour en revenir à Nicolas Sarkozy, c'est une grande figure de ce que vous appelez dans votre livre la décennie répressive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Eh bien, c'est toute cette période politique qui démarre, elle est pour faire court, dans les années 90, à la fin des années 90, et qui vont s'accélérer au début des années 2000 avec la promotion d'agenda politique, notamment à droite, mais pas seulement, qui repose sur la préférence punitive, la préférence répressive, la préférence carcérale pour faire face aux phénomènes de délinquance, notamment aux phénomènes de délinquance de voie publique, qui concernent beaucoup les classes populaires, les petites classes moyennes, les petites gens. Donc on est dans cette période-là, mais ce n'est pas seulement que des mots. C'est-à-dire que derrière ça, il a ensuite été président de la République et en fait, on a eu une succession de lois de modification du code pénal et le code de procédure pénale visant à étendre le filet pénal, ce qu'on appelle le finet pénal, c'est-à-dire l'ensemble des comportements qui peuvent être incriminés, d'aggraver les peines, d'accélérer le traitement judiciaire, notamment de la justice des mineurs, pour nous débarrasser, comme il dit, des racailles. C'est ce qu'il avait promis, promesse non tenue, parce que c'est pas que des mots, la délinquance, c'est ancré dans des dynamiques sociales, c'est ancré dans des inégalités sociales. Donc, ça incarne cette période-là et c'est intéressant parce que Sarkozy était aussi à la manœuvre dans un certain nombre de textes de loi visant à pénaliser les déviances collectives, notamment l'appartenance à une bande.
Oui, parce que c'est devenu un délit.
C'est devenu
2003.
Un délit, c'est ça.
Délit d'appartenance à une bande violente, ce qui est très large en fait.
Ce qui est très large et puis surtout qui peut être qualifié pénalement parlant avant même... C'est ça qui est intéressant, avant même qu'un acte soit commis par une présumée bande. C'est-à-dire qu'on peut incriminer aujourd'hui un groupe de jeunes au stade de préparatifs, et les préparatifs, c'est pas grand-chose. Hein. En tant que tel, quand on regarde les textes avec précision, c'est pas la peine d'avoir une armurerie dans son sac à dos pour parler de préparatifs. C'est possible d'incriminer un groupe en amont. Donc on a cette logique de pénalisation, mais en fait, sur la question des embrouilles de quartier, c'est pas efficace. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a des textes de loi qui sont complètement déconnectés de leur finalité. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le populisme pénal, c'est-à-dire la multiplication de déclarations, toutes les plus spectaculaires les unes que les autres, du vote de loi d'incrimination de comportements toujours plus importants, mais avec des résultats extrêmement limités sur le réel.
C'est pas du tout efficace, mais ça a permis de nombreux abus, comme par exemple le profilage racial, qui est le contrôle d'identité ou les fouilles injustifiées de jeunes hommes noirs et arabes pour la plupart, par la police. Donc on peut rappeler ici que selon une enquête du Défenseur des droits publiée en 2017, ils ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés par la police par rapport à la population générale, ce qui est énorme. Et dans votre essai, vous expliquez aussi qu'avec toute cette ambiance de répression qui s'est retrouvée dans la loi, on a fini par associer ces enfants et ces jeunes hommes à une cartographie des peurs. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est pas nouveau que les classes populaires soient construites comme des classes dangereuses. La cartographie des peurs, c'est aussi une manière d'associer une population au risque et au risque de délinquance. Et là, pour le coup, ça fonctionne à travers une espèce de cercle vicieux qui est que, au fond, si on prend l'exemple que vous avez donné tout à l'heure sur 20 fois plus de chances de se faire contrôler quand on est noir ou arabe, bah 20 fois plus de chances de se faire contrôler, c'est 20 fois plus de chances de se faire attraper avec une boulette de shit dans la poche. Donc 20 fois plus de chances de se retrouver déféré, placé en garde à vue et déféré et d'arriver dans un tribunal. Pour quelqu'un qui passe au tribunal, lui, il va voir beaucoup d'arabes et noirs. Pas forcément se poser la question, mais comment s'organise le flux ? En fait. Et donc, derrière ça, la presse la presse du fait divers, qui repose beaucoup sur sa source policière, elle va être abreuvée d'affaires impliquant des gens avec tel ou tel prénom. C'est-à-dire le prénom est devenu une espèce d'obsession d'une partie de la presse, une partie de la presse, qui est à la recherche de tout fait divers un peu dramatique, qui met en scène un auteur ou un auteur présumé avec un nom qui résonne étranger et une victime qui résonne française blanche. Bon.
Il y a une embrouille très récente qui montre tout l'enjeu de cette consonance des prénoms dans les faits divers, c'est l'affaire Crépol. C'était dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023. Thomas, un ado de 16 ans, est mort poignardé lors d'un bal à Crépol, un village de la Drôme. Le jour même, et sans attendre les premières révélations de l'enquête, l'extrême droite a dénoncé, je cite, « un crime anti-blanc » par une bande de La Monnaie, qui est une cité voisine à Romans-sur-Isère. Si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, on vous donne des références à la fin de l'épisode.
L'imagerie qui sort de ce traitement médiatique-là renforce la cartographie des peurs, une cartographie des peurs qui a deux piliers, c'est-à-dire l'idée que les minorités sont surreprésentées parmi les délinquants et l'idée en tant que minorité, hein, pas en tant que pauvre. C'est ça qui est intéressant.
C'est la question raciale qui ressort.
C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut penser les choses différemment. On peut dire, bon, bah, oui, c'est la surreprésentation des classes populaires dans une forme de délinquance qu'on retrouve. Mais dès lors que ces classes populaires-là, aujourd'hui, dans beaucoup d'environnements urbains, sont racisées, s'ajoute un filtre d'analyse qui est, c'est toujours les mêmes. Et au fond, c'est que c'est un phénomène culturel.
Est-ce qu'il y a d'autres phrases, façons de parler qu'on peut repérer dans les médias pour décortiquer ce discours de cartographie des peurs? Est-ce qu'il y a des éléments de langage auxquels il faut faire attention?
C'est l'ambition explicative et c'est la manière d'expliquer qui est extrêmement importante. Dès lors qu'on entend dans la bouche de journalistes ou de pseudo-experts que ce sont des violences gratuites, qui n'ont aucun sens. Voilà, typiquement, le discours de l'irrationalité des violences, c'est un discours extrêmement biaisé, mais qui ne va pas au fond des choses, pour le coup. Ça, c'est vraiment un... Enfin, moi, dès que je vois violence gratuite, dans ma tête, j'entends violence qui révèle l'ignorance de celui qui en parle.
Cette construction de l'image des jeunes hommes pauvres, racisés comme une masse uniforme, dangereuse et bête, à qui est-ce que ça sert? À qui ça profite?
Ça profite à tous ceux dont l'agenda politique ou idéologique repose sur une volonté d'exclure soit les classes populaires, de les exclure ou de les criminaliser, soit les minorités, notamment les minorités postcoloniales. Ça sert les intérêts de ceux qui veulent faire passer l'idée qu'au fond, nous n'avons pas de destin commun, au nom d'une espèce de fatalisme et de l'incapacité à modifier en profondeur l'état de la société. Et ça permet la croissance d'un bloc électoral anti-minorité, anti-banlieue, anti-quartier populaire, qu'on retrouve à droite et à l'extrême droite. Aujourd'hui, les frontières entre ces deux champs sont de plus en plus compliquées à dessiner. Voilà ce que ça permet fondamentalement, c'est-à-dire de contribuer à la droitisation, l'extrême droitisation des opinions, de la société, et à durcir les relations. Mais le problème, c'est que ce durcissement des relations et cette montée de ces idéologies permet de légitimer et de justifier des politiques de plus en plus répressives et punitives, de plus en plus ciblées, parfois discriminatoires. Et ça a des effets, y compris sur les masculinités dans les quartiers populaires. Parce que la criminalisation des petites inconduites populaires, ou plus ou moins importantes inconduites populaires, elle a des effets sur les parcours, notamment en réduisant les chances de mobilité sociale, en renforçant le pouvoir d'attraction des masculinités virilistes et des solutions offertes par la rue. La répression et la brutalité des pratiques de contrôle, notamment celles de la police, sont aussi perçues comme des challenges de masculinité.
C'est-à-dire un défi à relever.
Exactement.
Quoi.
Mais qui participent à l'intérioriser des normes virilistes qu'incarne la police elle-même et qu'incarne l'État lui-même. Et puis, il y a autre chose qui est plus pernicieux, c'est qu'au fond, dès lors qu'on est dans des logiques de forte répression, très indifférenciées, des contrôles à tout va, d'une partie de la population, l'idée se diffuse d'une absence de protection d'une partie de la population par l'État, par les autorités publiques, qui poussent un certain nombre à prendre en charge leur propre sécurité par l'affichage de leur propension à mobiliser la violence, de leur propension à dissuader. C'est juste de se dire, au fond, je suis dans une société et un pays dans lequel il y a une forme d'hostilité perçue de l'autorité politique, des élites, de la police, de la justice, et que du coup, cette autorité politique-là, ces institutions, ne me protègent pas, vu qu'elles me sont hostiles. Si elles ne me protègent pas dans ma vie quotidienne, il faut que je prenne en charge moi-même ma protection. Comment ? En envoyant un message très dissuatif de capacité à mobiliser la violence. Et ça se traduit notamment par des formes d'indifférence émotionnelle. La violence et l'indifférence émotionnelle, elles permettent de ne pas être perçues comme faibles. Il y a des postures corporelles, d'ailleurs, et les choix vestimentaires de la « street », entre guillemets, qui visent notamment à performer le détachement, l'indifférence et une certaine forme de dangerosité. Et le fait de performer cette dangerosité, cette indifférence émotionnelle et ce détachement-là, ça a des fonctions sociales. C'est pas les quartiers dans leur coin qui socialisent à l'embrouille. C'est pas les quartiers dans leur coin qui apprennent les mauvaises pratiques sociales à des jeunes garçons et les poussent à la violence. Ça existe, cette socialisation qui est reproduite, il y a une part d'autonomie, mais c'est pas déconnecté d'un certain nombre d'interactions avec la société, ses institutions, ses autorités politiques.
Pour terminer, est-ce que vous voulez bien nous recommander une œuvre d'art en lien avec les masculinités ou en lien avec notre conversation ?
Oui, j'avais croisé une peinture de Jean-Louis Ernest Meissonnier, qui est du 19e siècle, et l'intitulé de cette peinture, c'est La Rixe. Voilà, c'est le titre de la peinture. Et c'est une peinture qui parle d'une dispute dans une taverne à propos d'une partie de cartes. Et on y voit justement une table renversée, deux rivaux, deux gens qui se battent, très élégamment vêtus. Donc on se rend compte qu'elle ne concerne pas forcément les strates inférieures de la société. Et il y a vraiment un effet d'amplification très dramatique qui est lié à leur visage, qui sont tordus, qui s'étirent. Donc, il y a quelque chose d'absolument vital qui se joue dans leur conflit. Et puis, il y en a un qui tient une dague et l'autre qui menace de prendre son épée et deux personnes qui séparent. Voilà, on a au fond beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui dans notre échange qui sont résumées dans cette toile, dans cette image que ceux qui sont à Londres pourront voir au musée sur place.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Avec Naomi, Titi et toute l'équipe, on est toujours preneuse de vos remarques. Vous pouvez donc nous écrire sur le compte Instagram du podcast ou par mail à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Je vous redonne le titre de l'essai de Marwan Ouamed, « Y'a embrouille, sociologie des rivalités de quartier », publié en 2023 aux éditions Stock.
Et moi, je vous fais 4 recommandations pour aller plus loin après l'écoute de cet entretien. « Deux secondes d'air qui brûlent » de Diaty Diallo, c'est un très beau premier roman paru en 2022 aux éditions du Seuil. Il y a aussi le magnifique documentaire « Vers la tendresse » réalisé par Alice Diop qui est sorti en 2015. Vous pouvez le visionner sur la plateforme de cinéma documentaire Tank. Je vous recommande aussi l'épisode « Délinquance, clichés en bande organisée ». C'est un épisode du podcast Kif Taras de Rokaya et Grassly, dans lequel Marwan Mohamed était justement l'invité. Et c'est dans cet entretien qu'il revient sur l'affaire Crépole, qu'on a mentionné dans notre conversation. Et pour finir, je vous recommande vraiment d'écouter en entier la série de podcasts « La Cité des Hommes » de Seham Boutata, dont on a passé un extrait. C'est un magnifique documentaire réalisé par Samuel Hirsch et produit par Arte Radio. On vous met toutes les références dans la page du site qui accompagne cet épisode sur binge.audio. Les couilles sur la table, c'est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. J'ai fabriqué cet épisode grâce à toute une équipe. Victoire Tuaillon à la direction éditoriale, Quentin Bresson à la prise de son, à la réalisation et au mixage, c'était Paul Berthiaud, à l'édition, Lucille Leboutet, et à la communication, Jeanne Longuigny et Lise Niederkorn. Merci beaucoup à elles et eux pour leur travail, et encore merci à vous pour votre écoute précieuse. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.